Bah moi, j'ai passé énormément de temps sur le GR, pour préparer le GR. Je pense que c'est la meilleure des prépas parce que c'est un terrain que tu retrouves difficilement ailleurs. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça. Tu as énormément de pierres, énormément de cailloux. Tu lèves toujours les jambes. Tu vois, tu n'as jamais une foulée rasante. Il n'y a jamais, même dans la descente, tu peux pas te relâcher. Tu vois, je sais pas, moi, sur un UTMB, par exemple, en descente, tu vas courir, tu te relâches, tu allonges la foulée, ça court, ça va. Là, sur le GR, il y a très peu d'endroits. Il y a très peu d'endroits où tu peux un peu te relâcher. Donc, c'est vraiment la difficulté là, quoi. Mais je pense que voilà, la meilleure façon de préparer ça, c'est d'être sur le terrain parce que c'est vraiment particulier, quoi. Ah ben oui, carrément, parce que j'étais attendu et plus qu'attendu, et que ce soit. Enfin, l'engouement en Corse, il était énorme. C'était pas que les coureurs et que les sportifs, c'était tout le monde, quoi. Tout le monde, les gens de 7 à 77 ans, tout le monde était là, a suivi le live et tout. C'était énorme, quoi. Donc, oui, ça met une pression quand même supplémentaire parce que tout repose sur toi. Demain, tu fais une course, comme je dis, tu fais une course, ben, ça va pas, tu abandonnes ou quoi. Bon, mais la course, elle continue, il y a un vainqueur à la fin et c'est bon, on n'en parle pas. Là, si moi je m'arrête, il y a tout qui s'arrête, quoi. Donc, t'imagines bien que c'était quand même assez, assez pesant. Ouais.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Lambert Santelli. Vous avez très probablement entendu parler du retentissant exploit qu'a signé Lambert à la fin du mois de juin dernier sur ses terres corses. Il s'est en effet lancé dans une tentative de record sur le GR20, le célèbre sentier corse de grande randonnée. Ce redoutable et mythique sentier de près de 170 km a été le théâtre de nombreuses tentatives de record ces dernières années. Après en avoir accompagné lui-même certaines au titre de pacer, le tour était venu pour Lambert de se lancer dans cette folle aventure, avec pour objectif de battre le record alors détenu par François Denne en un peu plus de 30 heures. Une initiative couronnée de succès que Lambert tient à tout prix à inscrire dans une démarche collective plutôt qu'un simple exploit individuel. Préparez-vous à vivre un épisode exceptionnel avec Lambert qui se livre avec beaucoup de cœur et d'authenticité sur ce sentier et ce record éminemment symbolique pour lui. Mais je ne vous en dis pas plus. Lambert va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Corse Épique.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Lambert, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment vas-tu?
Salut, ça va, super, écoute. La saison tire à sa fin au restaurant et voilà, bientôt les vacances et dans quelques jours je pars à La Réunion pour courir la Diag le 20 octobre, enfin le 21 octobre. Donc voilà.
T'es pas malheureux.
Tout va bien, il y a pire.
Lambert, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Alors moi j'ai 33 ans. J'habite un petit village en Haute-Corse, en Balagne, un petit village qui s'appelle Lavatoge. Je suis marié, j'ai deux enfants, un de 3 ans et un de 7 ans. Voilà, je suis restaurateur, on tient un restaurant en famille avec mon épouse, mon père, mon frère. Enfin, on travaille tous à la ferme auberge. On est éleveur en parallèle, hein. On a une exploitation agricole, on a des vaches, on a un potager. Voilà, donc on produit une bonne partie de nos produits, de ce qu'on sert au restaurant. Voilà.
C'est quoi votre spécialité?
Notre spécialité, c'est beaucoup la viande. Hein. On travaille beaucoup la viande. On fait du veau, du cochon à la broche. On fait des veaux entiers à la broche et des cochons tout l'été.
Bah, il est un peu tôt, là. On est un peu tôt le matin, mais ça donne envie quand même. Le fameux veau corse. Lambert, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant, puis jeune ado? C'était quoi ta relation au sport à l'époque?
Oh, j'ai jamais été gamin, j'ai pas été un grand sportif. Enfin, ma mère voulait à tout prix que je fasse du sport et je pense que ça a été pas la meilleure façon de me dégoûter, mais presque. Hein. Elle voulait absolument, enfin, avec mon frère, elle nous a fait faire un peu tout le sport, du foot, du tennis, elle insistait pour qu'on le fasse. Puis on n'a jamais trop accroché à rien. Et moi, je me suis mis sur le tard, hein. Je me suis mis à faire du sport vers 20-25 ans. Voilà, pour maigrir, au début, j'ai commencé à courir. Et puis bon, après, je me suis pris de passion. Et puis voyant les résultats et le potentiel, je suis devenu mordu.
Et donc, c'est la course à pied, justement, à ta vingtaine, que tu as commencé à explorer un peu plus particulièrement. Ça a été tout de suite ça?
Oui, oui, bah, la course à pied. Après, j'ai toujours été... Nous, on vit dans un milieu rural, donc on est éleveur, on a toujours été à la campagne. Moi, je suis chasseur depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gamin. Donc, j'ai toujours marché en montagne, toujours accompagné mon père à droite à gauche. Donc, ça, j'ai toujours eu cette relation-là avec la montagne. Donc, c'est naturellement que je me suis retourné vers le trail dès que j'ai trouvé le sport qui me plaisait, quoi.
Et est-ce que, dès ton plus jeune âge, tu as développé un attachement particulier au GR20 qui va être l'objet de notre épisode aujourd'hui? Est-ce que c'était un de tes terrains de jeu privilégiés, justement, quand tu as commencé à mettre le pied un peu à l'étrier de la course à pied du trail?
Ben, le GR20, pas de suite. C'est venu un peu plus tard. Mais oui, c'est vrai que c'est venu... Quand on parle de trail en Corse, le GR, c'est de suite... on pense à ça de suite, quoi, parce que c'est mythique. C'est mythique, et puis les meilleurs coureurs s'ils sont frottés, donc forcément ça me fait envie, quoi.
Tu as des références, Lambert, en course qui sont très évocatrices. Pour n'en citer que quelques-unes, tu as remporté le Trail de Bourbon en 2019 à La Réunion. Tu as également triomphé plusieurs fois sur l'Ultra Trail d'Icorsica ainsi qu'au Restonica Trail. Tu comptes plusieurs cinquièmes places de référence à ton actif à la Transgrande Canaria, au Mute, à Madère en 2019, aux 90 km du Marathon du Mont Blanc en 2018. La liste est encore très très longue. Est-ce que, hormis ce record du GR20 dont on va parler un peu plus en profondeur aujourd'hui, est-ce que tu as un souvenir particulièrement marquant de ta vie sportive jusqu'ici, qui a peut-être opéré une bascule pour toi, qui a été une forme de révélation? Quels ont été le ou les moments très marquants de ta vie jusqu'à maintenant dans ta relation au sport?
Forcément, oui, il y a eu quelques courses références. Hein. Déjà, mes premières courses, ma première victoire, je m'en souviens très bien, c'était la course de l'Orient dans le centre Corse à Lisone, et forcément ça fait quelque chose, quoi. La première fois qu'on remporte une course, quelle qu'elle soit, quelle que soit la distance, il y a quelque chose. Après,
c'était
le premier,
quelle distance sur cette course?
C'était un 20 km, c'était une course rapide, un format sky running. Après, mon premier ultra aussi à Corté, bien sûr, au Restonica Trail, le 110 km de Corté. La première fois que je faisais une course si longue, je suis arrivé complètement épuisé au bout du bout, mais voilà, j'étais devant et j'avais réussi à gérer ma course plus ou moins bien, et forcément ça laisse des idées pour la suite, quoi, après.
Et est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des moments de course plus difficiles qui ont été aussi une source d'apprentissage pour toi, des choses qui ne sont pas passées exactement comme tu imaginais et qui t'ont permis de te construire aussi, enfin, construire ton expérience?
Oui, bien sûr. On apprend tout le temps. On apprend de ses erreurs. L'ultra, de toute façon, c'est une quête perpétuelle d'amélioration. Enfin, je sais que on prend de l'expérience à chaque course, et je pense que on apprendra toujours, quoi. On apprendra toujours de notre corps, de notre façon de courir, de la gestion, enfin, de plein de choses. Donc, il y a eu des erreurs, bien sûr, de fait sur certaines courses qui m'ont servi par la suite.
Tu as parlé d'un 20 km, là on va parler du GR20 qui est une course beaucoup plus longue aujourd'hui. Est-ce que tu as un format de course de prédilection? Est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même des distances sur lesquelles tu as envie de t'attacher plus particulièrement, ou est-ce que tu n'as pas vraiment de règles et tu as envie de varier un peu les plaisirs?
On va dire que j'aime courir aussi des courses plus courtes, des courses de 40, 50 km, mais bon, je reste quand même, je pense maintenant avec les années qui passent, je suis plus à l'aise et je prends plus de plaisir sur un ultra, sur une course de 15, 20 ou 25 heures. C'est ce qui me plaît le plus maintenant, à l'heure actuelle.
Comment tu choisis les courses auxquelles tu vas participer? C'est quoi les critères déterminants? Est-ce que tu veux aller explorer des terrains que tu connais pas, ou au contraire te perfectionner sur des terrains que tu maîtrises un peu mieux? Est-ce que c'est des opportunités qui se présentent? Comment est-ce que tu construis un peu tes échéances dans une année de course?
Non, ça, après, j'aime aller sur tous les terrains. Après, bon, c'est sûr que je suis plus à l'aise parce que c'est le terrain sur lequel je cours, mais je suis plus à l'aise sur des terrains techniques, montagneux. Mais j'aime aussi aller sur des courses roulantes où je ne suis pas forcément à mon avantage parce que voilà, ça fait sortir de sa zone de confort et ça fait travailler différemment. Donc, j'aime aller sur tout type de course. Ouais.
Quel accomplissement tu y trouves aujourd'hui? C'est quoi les bénéfices que tu vois à pratiquer le trail? Fondamentalement, ça te procure quoi comme plaisir?
Bien-être au quotidien déjà, parce que voilà, j'aime le sport, j'en ai besoin. J'ai besoin d'en faire tous les jours. Et bon, je suis un peu accro, comme beaucoup, je pense. Et après, voilà, le dépassement de soi en ultra, c'est fondamental, quoi. C'est le dépassement de soi, la quête... je ne sais pas comment on pourrait exprimer ça, mais la quête du bonheur, on va dire.
Que tu trouves, j'espère, à chaque fois.
Ah oui, pour ça, ouais. Ah, moi, c'est 100% plaisir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise de tête.
Lambert, je vais demander de prendre un petit miroir et te regarder dedans. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses être aujourd'hui les domaines et les secteurs dans lesquels, à la fois physiquement et mentalement, tu as des capacités naturelles ou que tu as développées en tout cas importantes, et puis peut-être d'autres zones sur lesquelles tu penses qu'il y a encore du boulot ou des voies d'amélioration possibles?
Des améliorations, il y en a certainement. C'est pas... c'est ces améliorations, on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours à faire, mais... Bon, là où je pense être assez fort, c'est mentalement, quoi. Avoir une volonté qui permet d'aller au bout et de travailler, de courber les chines quand ça fait mal et de se dépasser. Ouais. Ça, je pense que c'est ma plus grande qualité.
Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de la place que tient la course à pied dans ton quotidien? Tu l'as expliqué, tu as une vie professionnelle extrêmement chargée. Comment est-ce que tu combines ta vie de famille, ta vie pro avec le restaurant et puis voilà, tout ton travail de la terre, etc., enfin tous tes élevages, puis avec ta pratique sportive? Comment tout ça s'organise, une semaine type pour toi? C'est quoi, Lambert? Est-ce que ça existe même une semaine type pour toi, ou est-ce qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent?
Oui, non, les journées se ressemblent beaucoup. Enfin, du moins quand le restaurant est ouvert. Après, on n'est pas ouvert toute l'année. Nous, on est ouvert du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc, pendant les 6 mois de saison, j'arrive à concilier boulot, course à pied et famille. Je m'entraîne souvent en fin d'après-midi parce que c'est là que j'ai un créneau. Donc, entre 16h et 18h. Bon, après, quand je dois faire des sorties un peu plus longues, j'essaie de me libérer le matin. Mais voilà, le matin, j'essaye d'être là pour les petits quand ils se réveillent, les amener à l'école, prendre le petit-déj en famille, tout ça. Et voilà, après, dans la journée, j'ai pas mal de travail au restaurant. Après, une sieste, toujours la sieste, très important. Après,
important. Donc,
14h, 16h, c'est la sieste. Et voilà, après, j'arrive à m'entraîner donc 1h30, 2h. Ça, c'est en plein été quand j'ai un petit peu moins de temps. Et le soir, au travail. Au restaurant, pour le service, quoi.
Tu arrives à combiner tout ça, en tout cas. C'est un petit tour
ouais,
de force.
Oui, bon, ça laisse pas énormément de temps mort, mais on arrive à combiner ça. Après, l'hiver, c'est vrai que j'ai plus de temps. Quand le restaurant est fermé, on a simplement un petit peu de travail sur l'exploitation et l'école, mais bon, c'est plus cool. Donc, je suis plus tranquille l'hiver. Bon, je profite beaucoup plus de mes enfants. J'ai beaucoup plus le temps de les voir et de faire des choses avec eux.
Et puis c'est sympa de trouver du temps pour faire un podcast dans tout ça. En tout cas, j'en profite pour te remercier à nouveau, Lambert, c'est vraiment très cool. Merci beaucoup pour cette intro. On va passer désormais à la séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois qui permet de continuer à mieux connaître mon invité du jour. La première question de cette basket chinoise pour toi, Lambert: si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Est-ce qu'il y a un personnage qui a particulièrement marqué ton enfance ou aujourd'hui à l'âge adulte, quelqu'un que une personnalité qui a des belles valeurs dans lesquelles tu te retrouves?
Écoute, moi j'aurais peut-être dit Rocky.
Rocky. Là, on a tous la musique en tête. Toi aussi, quand tu montes en haut des escaliers, tu lèves les bras en l'air et t'entends cette musique ou pas?
Ouais, souvent, ouais, ça te rend fort. Tu te sens fort, du moins.
Donc, ouais, Rocky Balboa.
Ouais.
Si tu étais un animal, lequel serait-il?
Un animal à mouflon pour les qualités de pied en montagne.
C'est fondamental, c'est vrai que c'est pratique.
Ouais.
Pour l'usage que tu en fais.
C'est fascinant comme animal quand on les voit. Enfin, moi, j'en vois souvent quand je me balade en montagne. C'est un animal extraordinaire.
Ouais, magnifique. Ouais. Très bien. Et dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi? Donc, c'est toute génération confondue, tout sport confondu. Est-ce que tu as une idole ou un sportif en tout cas que tu trouves référent?
Bah, j'aurais dit... Je suis pas trop football en règle générale, mais Cristiano Ronaldo quand même, c'est pour sa façon de son travail et sa détermination à être tout le temps le meilleur depuis des années, des années, des années. Je dirais Ronaldo.
C'est un bosseur.
Ouais, c'est un bosseur acharné et rien que pour ça. Hein. Ouais, je dirais Ronaldo.
Je pense qu'il y a d'autres stars du ballon rond qui devraient s'inspirer en tout cas de sa discipline.
Ouais, c'est sûr.
Moi qui suis parisien, je regarde en particulier dans ce vestiaire-là. Merci beaucoup, Lambert, de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. On va désormais parler de ta course épique. Donc, je vais la présenter en quelques mots. Donc, ta course épique, elle plante son décor le long du GR20, qui est le sentier de grande randonnée en Corse, qui est souvent considéré comme le sentier le plus difficile au monde. Ce sentier de grande randonnée traverse la Corse au départ de Calenzane pour une arrivée à Conques. Le trajet inverse est également possible. Il mesure dans sa version actuelle 180 km et totalise plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. Les tentatives de record se font, elles, depuis 1995 sur l'ancien tracé, long de 165 à 170 km environ. Pour la petite histoire, le premier balisage du sentier est réalisé en 1970. Le GR20 était ainsi né. On lui attribue ce numéro en référence à celui de l'ancien département de Corse avant que deux départements ne soient distingués en 2A et 2B en 1976. Pour les randonneurs, le GR20, c'est en théorie entre 10 et 16 jours de marche en montagne, pour ne pas dire en haute montagne, avec plusieurs sommets à plus de 2000 mètres. Le terrain de manière générale, les rochers et le dénivelé très marqués ont fait la réputation de ce sentier mythique, au même titre que ses paysages à couper le souffle. Je pense que tu vas nous le confirmer, Lambert.
Ouais.
Cette aventure, elle est découpée par des nuits en refuge ou en tente et des journées à évoluer sur le sentier corse. Et donc, au gré des 16 étapes, ce parcours est une aventure sans nul autre pareil, très exigeante, minérale, grandiose, à laquelle de nombreux prétendants venus des quatre coins de la planète prennent part chaque année et parmi lesquels les échecs sont nombreux, faute de préparation. Faire le GR20, c'est un rêve de gosse pour certains, pour d'autres randonneurs, c'est l'objectif de l'année, pour d'autres enfin, c'est le moyen idéal de se préparer à un trail ou tout simplement partager une aventure en famille. Quant à toi, Lambert, on est dans une dimension sportive qui est évidemment tout autre et tu vas nous le raconter, puisque toi, tu t'es attaqué au record de vitesse sur le GR20 qui a changé un certain nombre de fois de main ces dernières années. Il est devenu en 2014 la propriété de Guillaume Peretti qui avait alors avalé le GR20 en 32 heures pile, un véritable exploit à l'époque. En juin 2016, c'est au tour de François Daene de devenir le nouveau détenteur de ce record en bouclant le parcours en 31h06. Et l'été dernier, donc en 2020, le jurassien Xavier Thévenard, soutenu par une importante équipe d'assistance et aidé par une trentaine de meneurs d'allure dont tu faisais partie, Lambert, a lui échoué dans sa tentative ralentie par d'importantes douleurs au pied alors qu'il était longtemps resté en avance sur les temps de passage du record de François. Xavier avait alors bouclé son périple harassé en 32h32, soit le troisième temps de l'histoire du GR20. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur le GR20 que tu vas nous raconter plus en détail, Lambert. Avant de faire le grand saut, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Donc, compte tenu de la course qui nous intéresse aujourd'hui, le nombre 20 va être très probablement cité à de nombreuses occasions dans cet épisode. Je te propose donc de lui rendre un vibrant hommage avec une question qui pique consacrée au 20e tome d'Astérix, qui n'est autre qu'Astérix en Corse. Heureux hasard ou savant calcul, je ne sais pas si ça a été fait exprès. En tout cas, cet album d'Astérix a une particularité notable par rapport aux autres de la série, et plus particulièrement dans les traditionnelles pages qui sont en préambule de l'album. Je ne sais pas si tu vois, avant qu'on démarre l'histoire, quand tu ouvres, juste après, ouais. Sur la deuxième de couve, il y a une particularité sur ce tome de Astérix en Corse. Est-ce que tu saurais me dire laquelle?
Alors là, non. Je l'ai lu étant gamin, je l'avais, ouais. Astérix en Corse, mais ça remonte à des années et des années. Franchement, je me souviens pas.
Écoute, c'était vraiment pas facile, mais tu sais, habituellement, au début de l'album, il y a une fameuse carte de la Gaule dans laquelle on voit une loupe qui montre le village d'Astérix et qui est entourée de camps de Romains tout autour. Je sais pas si tu vois cette double page. Et sur Astérix en Corse, la carte, elle est en Corse et c'est les côtes qui sont couvertes de camps romains. Donc voilà, c'est la première fois et le seul tome dans lequel c'est pas la France qui est entourée de camps romains, pas la Gaule, pardon. Mais c'est la Corse, voilà.
Bon, bah écoute,
pas facile.
Je m'en souvenais pas, non. Tu m'as pas posé une question facile.
Merci beaucoup, Lambert. On va passer désormais à ta captivante tentative de record sur le GR20, qui devait certainement être une idée fixe pour toi depuis de nombreuses années. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est né ce projet de tentative de record du GR20? Est-ce que c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours?
Forcément, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, quand on fait du trail ici en Corse, le GR, ça représente énormément de choses parce que c'est un peu les débuts. Piero Santucci qui a donné le. Pierrot Grigier, disons, ça a été ceux qui ont donné le temps et qui se sont frottés au record au tout début. Donc voilà, après moi je l'ai fait avec Guillaume en 2000, si je dis pas de bêtises, c'était 2014. Donc à partir du jour où je l'ai fait avec Guillaume, c'était clair, un jour si j'en avais les capacités et si je pouvais, si je me sentais capable, je devrais m'y attaquer, quoi.
Est-ce que tu avais accompagné Guillaume sur l'intégralité du GR20 ou seulement certains segments?
Non, j'avais fait une partie au début, j'avais fait une quarantaine de kilomètres au début et puis j'avais refait un morceau à la fin. Voilà, j'avais fait une belle partie, mais pas entièrement, non.
Sinon, tu aurais été co-détenteur du record, effectivement.
Oui, voilà.
pas tout à fait juste. Et donc, toi, tu as une connaissance globalement du GR20. Enfin, tu en connais au-delà de cette expérience avec Guillaume. Est-ce que tu connais chacune de ces parties, l'intégralité, ou est-ce que... Et puis, est-ce que tu penses que c'est indispensable de connaître parfaitement le GR20 pour espérer y réaliser une perf notable? Est-ce qu'il faut connaître chaque recoin du sentier?
Bah, forcément, ça aide. Ça aide parce que c'est... Enfin, moi, je le dis clairement, j'ai pas le niveau d'un François de la Haine ou d'un Xavier Thévenard. Je suis pas sur le papier, je suis pas aussi fort qu'eux. Mais l'avantage, il a été là. Il a été que je connais le GR pierre par pierre et presque mètre par mètre. Et voilà, je sais où je mets les pieds à chaque fois et je sais à quoi m'attendre derrière une bosse. Je sais ce qu'il y a, je sais où je vais pouvoir relâcher, où je vais pouvoir récupérer. Et donc ça, c'est clairement le plus gros avantage, quoi.
Est-ce que ce projet de record, c'est aussi pour toi une façon de donner un coup de projecteur au patrimoine corse qui était, j'imagine, très cher?
Bien sûr, oui. Moi, j'ai voulu mettre en avant tous ceux qui œuvrent sur ce sentier tout au long de l'année, parce qu'il y a du travail. Le GR, il y a du monde que quelques mois dans l'année, mais il y a du boulot toute l'année. Tout le monde, que ce soit les muletiers, que ce soit les gardiens de refuge, il y a du travail l'hiver, enfin, il y a du monde sur le sentier quasiment toute l'année. Donc, j'ai voulu... parler de tous ces gens et qui permettent à tous ces promeneurs qui viennent l'été de se régaler sur leur sentier, quoi.
Le GR20, il revêt dans l'inconscient collectif une dimension vraiment mythique. Est-ce que tu as une idée de ce qui peut nourrir autant d'enthousiasme et de fascination au-delà de l'incontestable beauté du parcours? Qu'est-ce qui fait que c'est différent sur le GR20?
Bon, je pense que c'est la difficulté du parcours qui fait que c'est devenu quelque chose de mythique, un peu un graal pour tout randonneur ou maintenant trailer, parce que de plus en plus maintenant on parle presque autant de je crois qu'en termes de fréquentation il y a presque autant de trailer que de randonneurs, enfin du moins des gens qui le font rapidement. C'est normalement le GR, c'est 15 étapes, une étape par jour, c'est 15 jours, mais maintenant on parle de plus en plus de GR en 5 jours, 6 jours. Voilà, donc c'est la difficulté du parcours qui fait qu'il y a cette fascination pour le GR, quoi.
Et est-ce que tu penses qu'il y a une banalisation de la performance sur le GR20? Est-ce que justement le fait de voir de plus en plus de trailers s'y attaquer, d'être dans une logique de vitesse assez soutenue, de peut-être doubler les étapes, etc., est-ce que tu trouves que c'est un risque, que ça peut être piégeux et que les gens se voient un peu trop beaux sur ce parcours qui reste quand même hyper exigeant?
Non, un risque non. Après, il y a beaucoup d'abandon, mais ça, c'est comme sur une course, c'est comme sur, je pense que sur un tour, sur le tour du Mont Blanc aussi, il doit y avoir des gens qui sont un peu trop, qui prévoient de le faire un peu trop rapidement, qui s'emballent. Et après, c'est toujours pareil. On en revient. Tu as beaucoup d'abandon, tu as beaucoup. C'est un terrain vraiment, vraiment difficile, vraiment technique, accidenté. Donc c'est vrai qu'il faut être un minimum préparé. Mais bon, après, les gens en général savent à quoi s'y attendre et sont quand même assez
affûtés,
ouais. Les gens qui viennent s'y frotter connaissent un peu le truc, quoi.
Qu'est-ce qu'on prépare différemment pour se lancer à l'assaut du GR20 par rapport à un format comparable d'ultra, si on peut dire? Est-ce que tu peux nous parler justement de toi, les grandes lignes de ta prépa? Combien de temps avant tu as démarré? C'était quoi les grandes composantes de cette phase préparatoire pour arriver dans les meilleures dispositions?
Moi, j'ai passé énormément de temps sur le GR pour préparer le GR. Je pense que c'est la meilleure des prépas parce que c'est un terrain que tu retrouves difficilement ailleurs. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça. Tu as énormément de pierres, énormément de cailloux. Tu lèves toujours les jambes. Tu vois, tu cours jamais, tu n'as jamais une foulée rasante. Il n'y a jamais, même dans la descente, tu peux pas te relâcher. Tu vois, je sais pas, sur un UTMB par exemple en descente, tu vas courir, tu te relâches, tu allonges la foulée, ça court, ça va. Là, sur le GR, il y a très peu d'endroits. Il y a très peu d'endroits où tu peux un peu te relâcher. Donc, c'est vraiment la difficulté là, quoi. Mais je pense que voilà, la meilleure façon de préparer ça, c'est d'être sur le terrain parce que c'est vraiment particulier, quoi.
Tu as signé l'envers de ta phase de prépa des sacrés coups d'éclat avec notamment un record que tu as battu début mai en compagnie de Noël Giordano et Fred Callier sur le parcours de Marais à Marais Sud, soit 80 km et 4000 mètres de déplus entre Propriano et Portovec. Est-ce que c'était déjà annonciateur en tout cas d'une forme très satisfaisante?
Oui, bon, la forme était là. Et puis c'était un projet qu'on voulait faire avec les copains, avec Noël et Fred, qui sont deux très bons amis. C'était quelque chose, on en parlait déjà depuis l'an passé. Et voilà, moi, ça m'a permis d'avoir déjà une expérience de se battre contre le temps, de se battre contre un chrono, parce que c'est particulier, hein. c'est pas une course. Donc, c'est autre chose. Et voilà, donc, content d'avoir suggéré le chrono et d'avoir battu ce temps avec les copains. Donc, c'était vraiment super.
La dimension collective, on va l'entendre, c'est une notion qui est fondamentale et qui est au cœur du projet de record que tu as entrepris. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure et nous dire dans les grandes lignes comment vous avez organisé et réparti les contributions de chacun sur le parcours? Comment est-ce que tu cales tes pacers? Combien t'entourent à tout moment? Est-ce que tu as toujours quelqu'un à côté de toi? Est-ce que c'est, on parle d'une personne? Est-ce qu'on parle d'un groupe de 6-8 coureurs? Comment est-ce que tout ça s'organise?
Ouais, moi, l'idée sur le GR, c'était vraiment de rassembler un maximum de personnes avec moi, que ce soit au niveau des coureurs, que ce soit au niveau de l'assistance, parce que voilà, il y avait énormément de gens qui voulaient participer et qui étaient fiers d'être là à mes côtés. Donc, j'ai voulu rassembler un maximum. Donc, au niveau des coureurs, il y a toujours eu entre 5 et 10 personnes avec moi tout le long du parcours. On avait défini des tronçons allant de 20 à 40 kilomètres. Voilà, donc les coureurs se relayaient là-dessus. Et après, au niveau de l'assistance, il y avait encore une bonne trentaine de personnes qui, ça c'était la caravane, hein, qui suivait tous les passages de route, on va dire. Donc c'est Verge au début, Verge au Vite-Savone, Capané, enfin il y a 6-7 passages de route. Voilà, donc à chaque fois on avait une assistance aux prisonniers avec kiné, médecin, cuisinier, on avait tout ce qu'il fallait, quoi.
La fine équipe,
ouais. Et c'est vraiment ce qui m'a porté, quoi.
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi la fin du mois de juin pour te lancer dans une telle tentative de record? Est-ce que c'est la période la plus appropriée, ni trop chaud, ni trop froid, pas trop de monde? Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle tu as choisi ce moment-là?
Oui, bien sûr, fin juin, c'est pour moi la meilleure période pour faire le GR. Mais encore cette année, il y avait eu énormément de neige. Il y a eu de la neige jusque tard. Sinon, on peut même faire ça mi-juin, c'est bien, on évite encore les grosses chaleurs. Mais voilà, on va dire entre le 15 et le 30 juin, pour moi la meilleure quinzaine pour faire ça. C'est là qu'on a les journées les plus longues. Et voilà, moi j'avais calculé le 25 pour avoir on avait la pleine lune cette nuit-là. Donc un peu plus de lumière et voilà, on a eu beaucoup de chance, on a eu des conditions optimales, on n'a pas eu trop chaud, on a eu pas de vent, enfin c'était vraiment beaucoup de chance là-dessus.
Un savant calcul et un petit peu de chance, il faut l'aider,
ouais,
en général.
Mais il faut de la chance quand même.
Comment est-ce que tu as défini ta stratégie de course sur le record et déterminé les différents temps de passage? Est-ce que ton rythme, il était simplement cadencé pour espérer passer un peu plus tôt à chaque fois que les chronos de référence de François? Ou comment tu avais déterminé exactement tes temps de passage?
Oui, bien sûr. Ben, on avait les temps de François, j'avais les temps de Guillaume, j'avais les temps de Xavier. Enfin, j'avais les temps un peu des derniers records et tentatives. Donc, on a calqué un peu ça là-dessus. Après, on a beaucoup aussi fait par rapport à ma connaissance du terrain et autant fait à l'entraînement, à droite, à gauche. Je savais là où je pouvais gagner du temps. Je savais là où François en avait perdu parce que François, il avait pris un peu de mauvais temps quand même sur la partie nord. Donc, je savais qu'il avait perdu du temps entre on va dire, Asco et Vite-Savone. Donc, je savais que là, il y avait à gagner. Et c'est là que j'ai pris mon avance. Je suis sorti à Vite-Savone avec quasiment une heure d'avance. Et après le sud, bon, j'ai géré parce que François était allé vite dans le sud. Et j'ai géré sans trop perdre de temps. Enfin, j'en ai perdu un petit peu, mais voilà, j'ai réussi à m'accrocher.
Quelles sont les qualités indispensables pour toi pour imaginer réussir un tel record? Il y a physiquement et mentalement.
Oui, bah forcément. Physiquement, on va dire que il faut être quand même assez.
C'est beaucoup la connaissance du terrain. C'est au-delà de ça. C'est vraiment la connaissance du terrain qui fera la différence.
La connaissance du terrain, bien sûr, elle fait la différence. Mais après, il faut quand même avoir des qualités de, je pense, de descendeur. Le GR, c'est quand même beaucoup de descentes difficiles. Les montées, après, bien sûr, les montées sont difficiles aussi, mais les descentes, c'est vraiment particulier. Donc, les qualités de descendeur, quand même, sur le GR, elles sont, je pense, énormes. Ça, et puis après, les qualités mentales, bien sûr. Parce que, bon, au bout de 20, 25 heures, je te cache pas que tout le monde en a marre. Tout le monde veut que ça s'arrête. Il y a mal partout. Mais bon, après, c'est la
On
tête.
On tape dans les réserves.
C'est la tête qui te porte. La tête et le groupe aussi. Le groupe, c'est l'équipe autour de toi. C'est énorme. C'est énorme. Parce
ça change
que,
tout.
Ça, voilà, c'est de maintenir tout seul, c'est pas pareil, quoi. Là, tu as tout le monde autour de toi, le soutien de ta famille, de tes proches, de tes amis. Et tu peux pas arrêter, quoi. Tu es obligé d'y aller.
Ton ami Guillaume Peretti l'avait annoncé dès l'année dernière l'identité du futur détenteur de ce record et il se trouve que c'est à toi qu'il a fait référence à l'époque. Est-ce que tu faisais preuve du même niveau de confiance que Guillaume avant de te lancer sur cette tentative de record ou il y avait quand même une part d'incertitude en toi sur sa faisabilité et sur ta capacité à venir le chercher?
Oui, je savais que c'était possible, bien sûr. Sinon je ne me serais pas lancé là-dessus. Mais après, tu as toujours une part d'incertitude. En ultra, il peut tout arriver. Hein. Pendant 30 heures de course, tu n'es pas à l'abri d'une défaillance, une entorse. Voilà. Il peut se passer plein de choses. Mais
tu as le sentiment d'avoir tout fait.
Du moins, je m'étais préparé comme il fallait. L'équipe autour de moi avait fait un boulot de dingue, que ce soit au niveau des temps, que ce soit au niveau de l'assistance. Les coureurs qui étaient avec moi avaient reconnu toute leur partie. Enfin, bon, moi je connais, mais c'est vrai que quand tu cours avec des gens qui sont juste devant toi et qui connaissent le chemin aussi bien que toi et qui savent où ils mettent les pieds, ben c'est énorme, quoi. C'est un avantage énorme. Donc on avait tout fait pour que ça réussisse. Normalement, ça devait réussir. Mais bon, après, voilà, il peut toujours se passer des choses en ultra.
L'état d'esprit des différents athlètes qui se sont frottés à ce record semble être très bienveillant et collaboratif, comme l'illustrent vos contributions respectives aux tentatives de record des uns et des autres. Est-ce que, malgré tout, c'était important et symbolique pour toi de faire en sorte que ce record puisse redevenir la propriété d'un coureur qui soit originaire de Corse?
Ah oui, oui, bah bien sûr que le record revienne chez nous. Il y a une part de
retour à la maison.
il y a un peu de chauvinisme dans tout ça, mais bon, c'est normal. Et tout le monde voulait que le record revienne en Corse, et tout le monde était concerné, était à 200%, quoi.
Donc ouais. Est-ce que ça met une pression supplémentaire sur tes épaules?
Ah ben oui, carrément, parce que j'étais attendu et plus qu'attendu, et que ce soit, enfin, l'engouement en Corse, il était énorme. C'était pas que les coureurs et que les sportifs, c'était tout le monde, quoi. Tout le monde, les gens de 7 à 77 ans, tout le monde était là, a suivi le live et tout. C'était énorme, quoi. Donc, oui, ça met une pression quand même supplémentaire parce que tout repose sur toi. Demain, tu fais une course, comme je dis, ben, ça va pas, tu abandonnes ou quoi. Bon, mais la course, elle continue, il y a un vainqueur à la fin et c'est bon, on n'en parle pas. Là, si moi je m'arrête, il y a tout.
Tous les regards sont sur toi.
Si moi je m'arrête, il y a tout qui s'arrête, quoi. Donc, t'imagines bien que c'était quand même assez, assez pesant. Ouais.
Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de te lancer? Est-ce qu'il y a, voilà, physiquement dans ta gestion? Enfin, je pense que tu vas nous le dire, mais t'avais pas fait d'effort aussi long jusqu'à maintenant. Est-ce que ça, justement, c'est une de tes interrogations sur ta capacité à tenir la distance, sans mauvais jeu de mots? Sur la durée, est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être une source d'inquiétude ou qui a l'impression de un peu moins maîtriser avant de partir?
Ouais, mais clairement, moi, ce qui me faisait peur, c'était les 30 heures, quoi, parce que j'avais jamais couru en course, j'avais jamais couru plus de 16, 17 heures. C'est vrai que l'an dernier, j'aurais voulu faire la Diag, déjà en 2020, pour avoir une expérience sur cette distance-là. Bon, après, la course a été annulée, donc, c'est vrai que je partais un peu, pas dans l'inconnu, mais les 30 heures, ça me faisait un peu peur quand même. Ouais.
Ça y est, Lambert, on est le 25 juin 2021. Le départ de ta tentative de record du GR20 est donné. La première partie de cette aventure entre Calanzana et Vergio, je suis désolé pour la prononciation, n'hésite pas à me reprendre. La première partie de ton aventure, donc, elle s'annonce particulièrement corsée avec 40 premiers kilomètres qui sont les plus difficiles de la course, si j'ai bien compris. Il y a un gros morceau de 4005 de D+. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment s'est passé ces 40 premiers kilomètres? Est-ce que tout est sous contrôle relativement sur cette partie assez technique et accidentée?
Oui, oui, bon, c'est un secteur que je connais très très bien parce que c'est proche de chez moi, c'est proche de là où j'habite. Donc à l'Anzana Verge, c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est qu'à une quarantaine de kilomètres avec 4005, c'est là qu'on prend le plus gros dénivelé sur le plus gros ratio kilomètre dénivelé sur du tout le GR, c'est là. Voilà, donc on est au départ à Calanzane. Il y a Noël avec moi, Noël, Jean-François. Enfin, on est cinq, Seb, on est cinq, six. Et bon, ben forcément, tu as de l'euphorie, tu es frais, donc ça part. On avait prévu des temps de passage. On est allé un peu plus vite que les temps prévus parce que tu te sens.
T'as lâché quelques pacers au bord de la route d'ailleurs.
Oui, il y en a un ou deux qui n'ont pas réussi à suivre au début, mais bon, ça, c'est, enfin, je veux dire, ils avaient pas la tâche la plus facile, quoi, le départ. On savait que ça allait être comme ça, quoi. Enfin, moi, je savais que j'en avais parlé les jours précédents. Quand tu pars sur une course, tu t'es préparé pendant des mois et des mois, puis là, tu t'es reposé les jours avant, donc tu es frais, tu te sens pas tes jambes, quoi, tu voles. Donc c'est vrai que jusqu'à Verge, j'étais vraiment dans un état
de
j'étais facile dans toutes les montées et tout, je me sentais pas bon. Ça a pas duré pendant les 30 heures, hein. Ça aurait été trop beau. Sinon on n'aurait pas mis 30 heures, on en aurait mis 26.
Mais tu croises du monde sur le parcours, Lambert, c'est quoi les réactions? Il y a beaucoup d'enthousiasme déjà et d'admiration de la part des personnes que tu croises sur le chemin?
Ouais, ouais.
C'est cette ferveur qui est palpable.
Il y a énormément de monde. Bon, déjà, c'est la semaine, je pense, la plus chargée sur le GR de l'année. Hein. 25 juin, c'est la semaine là où il y a le plus de monde sur le GR. Donc, les refuges, nous, on est parti à 15 h de Calanzane. Donc, on passe à Routou du Piobois à 17 h, Caro Tsou à 18 h 30. Voilà. Donc, les refuges sont à bloc. Les gens le savent, hein, savent qu'il va y avoir une tentative de record. Donc, tout le monde est là, tout le monde nous attend. Nous applaudit, nous acclame. J'ai l'impression d'être une rockstar, quoi. Après, voilà, il y avait plein de gens aussi, des gens que je connaissais, hein, sur le parcours. À Boca Tomagines, à l'entrée du Cirque de la Solitude, il devait y avoir une quarantaine de personnes, des gens qui étaient montés exprès nous voir là-haut. Il y a quand même, depuis la station de Los Quilasco, il y a quand même un peu plus de 2 heures de marche. Donc, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui s'est déplacé sur le chemin, quoi.
Tu boucles cette première partie en 8 h 30 et arrives sur un deuxième tronçon d'une quarantaine de kilomètres entre Vergio et Vidzavone. Ce segment qui te mène jusqu'à la mi-parcours s'avère être encore assez technique, avec un dénivelé qui est un peu moins marqué. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe cette section-là?
Ouais, bon, j'avais calculé le départ à 15 h. En fait, c'était pour prendre la nuit juste après le Cirque de la Solitude. Donc, on prend la nuit un peu avant d'arriver à Vergio. Et donc, cette partie dont tu viens de parler, cette quarantaine de kilomètres, ça nous fait toute la nuit. Donc, on passe par le Campoudil, c'est le lac du Nin, bergerie de Bacade, c'est la partie, on va dire, la plus roulante du GR. Tu as une quinzaine de kilomètres où c'est relativement roulant, tu cours le long d'un lac, enfin, c'est sympa, une belle partie. Puis après, tu rentres dans le technique à Bocalebourte. De Bocalebourte et à Vidzavone, là, c'est de nouveau de la caillasse, du minéral, des éboulis, enfin, tout ce que j'aime.
Donc, et aussi une grosse ambiance avec des comités d'accueil.
Et aussi une grosse ambiance.
C'est ambiance de stade.
À Bocalebourte, à 2 h du matin, on a toute l'équipe du Restonica Trail qui nous attendait, qui nous avait fait un super ravito là-haut avec de la soupe chaude. Enfin, c'était pareil à 2200 mètres d'altitude. C'est pour ça que pour que les gens comprennent quand même l'engouement qu'il y avait ici. Ils avaient monté des réchauds, enfin tout ça, à 2000 mètres d'altitude, ils nous avaient fait de la soupe, ils nous avaient fait du chaud, enfin c'est énorme, je te dis, quand même les gens.
C'était soigné.
Voilà. Et donc, grosse ambiance à Bocalebourte. Et voilà, bon, dans la nuit, j'ai eu un passage un peu plus, je pense que j'ai pris un petit coup de froid.
C'est un passage que tu aimes bien la nuit?
Oui, bien sûr, ça me plaît bien, mais je me suis pas couvert de suite. Et j'ai pris un petit coup de froid, et là, la descente sur Vidzavone, j'ai un peu ramassé. Je suis arrivé à Vidzavone un petit peu entamé quand même. Mais bon.
C'est une descente d'ailleurs que tu craignais un peu, qui est assez difficile et assez longue.
C'est une descente que je craignais parce que c'est une descente qui fait quasiment 10 km. Donc tu descends 1002, 1003 de démoins, mais très difficile, très technique. Et c'est une partie que j'appréhendais. Et bon, c'est vrai que je l'ai géré, mais ça aurait pu être mieux quand même. Quoi.
Ça a été à la hauteur de ce que t'en craignais.
Ouais.
Mais là, à nouveau, tu vas avoir droit à une récompense, puisqu'à Vidzavon, tu vas encore te faire chouchouter. Tu vas bien te nourrir, tu as le droit à un massage, tu retrouves pas mal de monde, de la famille, de tes copains. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont autour de toi, donc l'ambiance festive se poursuit.
Ouais, bah, c'est vrai qu'à Vidzavon, une grosse ambiance, énormément de monde. Il devait y avoir, je pense, 200-300 personnes et qui nous attendaient. Donc là, on a l'assistance, on a la caravane, donc je rentre dans le camion, je mange, je bois, j'ai le kiné qui me masse, tout ça. Ça a été la plus grosse, ça a été la pause la plus longue de ces 30 heures. Je crois que je me suis arrêté presque un quart d'heure là, à Vidzavon. Peut-être un peu trop même. Après, voilà, c'est encore une fois, tout à l'heure, je disais, on apprend toujours. Je pense que si c'était à refaire, je m'arrêterais moins parce qu'après, quand je suis reparti de Vidzavon, ça a été un peu dur. Ouais. Ça a été un peu dur.
Et oui, donc tu étais reparti en 16h30 de Vidzavon et tu étais toujours en avance sur les chronos intermédiaires de François. Et tu pars avec une nouvelle équipe donc sur un tronçon de 27 km en direction de Verde. Et là, c'est un segment qui est plus roulant qui se présente devant toi. Et ce changement finalement, enfin, c'est la combinaison peut-être de ce que tu racontais sur la coupure que tu as faite. Et puis ce changement d'allure peut-être ne te réussit pas tout à fait, c'est ça?
C'est ça, oui. Parce qu'en fait, là, on est à la levée du jour. Et donc, la partie d'avant entre on va dire, Boccalébourg et Vidzavon, c'est des endroits où tu cours quasiment pas. C'est toujours soit en montée, soit que ce soit en descente. C'est très raide. Donc, tu cours très peu. Et là, on arrive après Vidzavon, on arrive sur un secteur où il faut courir, justement. Tu as à peu près 20 bornes entre Boccapalmente et Verde, où c'est un petit single. Bon, c'est piégeur par endroit, mais ça court, quoi. Et je pense que la transition marche et course m'a fait un peu mal. Et c'est vrai que mais après, je me suis refait. Jusqu'à Capanil, là, j'étais pas très bien. À Capanil, je m'arrête de nouveau. On fait un petit arrêt, même pas 5 minutes. Et là, quand je suis reparti de Capanil, ça allait beaucoup mieux. Et je récupère le temps que j'avais perdu entre Vidzavon et Capanil. Je le récupère entre Capanil et Verde. Donc voilà, là, ça va beaucoup mieux. Et à Verde, je suis bien.
Et donc, tu es confiant à ce moment-là? On est à peu près à 110 km de la course. Est-ce que tu es confiant sur ta capacité à tenir le rythme et la cadence? Ou est-ce qu'il y a toujours cette même part d'incertitude et de sortir un peu de ta zone habituelle de connaissance de ton corps sur des temps de course aussi longs?
Non, je suis confiant parce que je te dis, ça va mieux. Voilà, j'ai eu un gros coup de moins bien, mais ça va mieux. J'ai récupéré mon avance. On a Verde, on a 50 minutes d'avance. Donc, je suis quand même confiant. Après, je sais qu'il reste un gros, gros morceau derrière. Mais ce morceau qui est derrière, Verde et Conca, si tu veux, je l'ai fait plusieurs fois à l'entraînement en entier, en une fois. Donc, je sais exactement, j'ai exactement mes temps en tête. Je sais que j'en suis capable. Et sauf gros pépin, je sais que ça va le faire, quoi.
Donc, malgré la difficulté, tu passes les heures suivantes relativement sereinement et puis tu connais un coup de bambou à l'approche des 25 heures de course. Est-ce que ça s'explique justement parce que là, tu sortais un peu de ta zone connue?
Ben, je pense que, en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que après Verde, ça allait beaucoup mieux. Là, j'ai eu un passage où j'étais très bien jusqu'à Ushul. Après Ushul, ça a commencé un petit peu à baisser. Ben, j'ai eu un petit coup de, j'avais un peu sommeil par moment. J'étais un peu.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu connais pas d'ailleurs?
Ouais.
Cette notion de sommeil, cette envie de sommeil, t'as jamais connu ça précédemment?
Non, jamais sur les courses, non, jamais. Et donc là, on est en 23, 24 heures de course, si j'ai pas de bêtises. 23, 24 heures de course et on arrive à la passerelle. C'est la dernière montée en bas de la passerelle. On est en dessous de l'Incoudine et c'est la dernière grosse montée, on va dire. On a 800-900 des plus à monter. Et là, je regarde la montre et je vois qu'on a quasiment une heure d'avance. Donc là, je pense que ce qui m'a fait un peu mal, c'est en fait, j'ai un peu relâché et je me suis un peu dit, ben, c'est fait, quoi. C'est fait. Et ça a été un tort, je pense, parce que derrière, ouais, j'ai eu un gros dans la montée.
Tu avais une grosse descente derrière, très, très difficile.
Ouais. Et la montée de l'Incoudine et la descente sur Azina, j'ai ramassé. Mais je te dis, je pense avoir un peu relâché et m'être un peu trop tôt dit, ça va le faire, c'est bon, on y est. Et bon, après, c'est encore une fois, c'est de l'expérience, hein, tu apprends tes erreurs.
Tu arrives finalement à Bavela, il te reste alors 17 km à parcourir. C'est aussi le moment où tu décides à nouveau d'appuyer sur la dimension collective de ta démarche et de ce projet. Donc, t'embarques plein de gens avec toi sur ce dernier tronçon et avec, je pense, un niveau de confiance sur tes capacités à battre ce record et, j'imagine, quasiment des certitudes. Donc là, c'est un moment d'euphorie collective que tu vis.
Ouais, ben c'est vrai qu'on avait, on en avait parlé avec tous les copains avant. On avait dit si y a bavé, là, on est toujours dans les temps. Si on voit que ça va le faire, on repart tous ensemble de bavé, là, et enfin, tous ceux qui m'avaient accompagné au long du parcours, on repart tous ensemble et on rentre à Conque à tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à bavé, là, bon, j'avais reperdu un peu de temps sur le secteur avant bavé, là. Mais bon, on avait toujours dans les 50 minutes d'avance. Donc, du coup, là, il y a tout le monde qui m'attend. Il y a une trentaine de copains qui m'attendent, prêts en short, en basket, prêts à partir. il y en avait une dizaine déjà avec moi du secteur d'avant. Donc, on repart de bavé, là, on est une quarantaine. Et pff, là, c'est énorme, quoi. J'avais les lunettes de soleil, mais sous les lunettes, je pleurais. Je pleurais parce que c'est des émotions, c'est une scriptie, quoi.
Donc là, tu es porté par cet élan collectif. Malgré tout, il y a quand même une dernière section avec la descente jusqu'à Conques qui s'annonce pas forcément de tout repos. Tu t'en sors finalement très bien et tu es dans les temps sur ce segment. Et tu arrives donc à 1 km au-dessus de l'arrivée. Et là, tu es accueilli à nouveau par une foule en délire et dans une ferveur qui ne va pas te quitter jusqu'à la ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux nous parler de ces derniers instants où tu es en mouvement et où tu es en train de toucher du doigt ce record ?
Ouais, bah en fait, il y a un endroit juste au-dessus de l'arrivée à Conques, il y a un endroit assez symbolique. Nous, on appelle ça Ebourte et Conques. C'est, tu passes entre deux gros rochers et ça fait un peu comme une porte, quoi. Et c'est vrai que c'est, nous, on l'appelle avec Guillaume, c'est les portes de la délivrance. Parce que quand tu passes là, c'est fini, quoi. Tu as un kilomètre de descente et c'est terminé. Donc, c'est à cet endroit-là, assez symbolique. Il devait y avoir une cinquantaine de personnes qui nous attendaient avec des fumigènes et tout. On y voyait encore, mais c'était fin de journée, je crois. Il était 21h. Donc, c'est, voilà, une ambiance de folie. Les copains qui tirent en l'air. Enfin, voilà, c'était monstrueux, quoi. Et voilà, et la descente sur Conques à la fin, là, bon, restez vigilants parce que c'était pas le moment.
C'est pas le moment de se faire la cheville, ouais.
Voilà, exactement. Donc, je reste vigilant jusqu'à la fin. Mais bon, là, tu sais que c'est fait, quoi. Tu sais que c'est fait et pouf, tu te dis, ça y est. Ça y est.
J'y suis.
Après tant d'années.
Tu arrives le 26 juin, donc à 21h25 à Conques, après 30h et 25 minutes de course. C'est quoi la toute première chose que tu as ressentie au moment où tu es arrivé au terme de ce GR20, au moment où tu t'es arrêté et le sentiment du devoir accompli? Par quoi tu as été submergé en premier?
Ben, ça a été... Ce qui m'a le plus touché, c'est cet engouement énorme qu'il y a eu, mais de la part de tout le monde, quoi. Il y avait à Conques, en bas, il devait y avoir 500 ou 600 personnes à l'arrivée, mais il y avait des gens, enfin, des sportifs, des non-sportifs, des jeunes, des vieux. Enfin, il y avait. Ouais, ça, c'est. D'avoir. Ce qui m'a le plus touché, c'est d'avoir réussi à rassembler autant, quoi. Ça, c'était super, quoi.
C'est aussi ta victoire, c'est ça?
Ouais.
Ça n'aurait pas été possible sans tout ça. Sur les gens qui t'ont accompagné sur la course et puis à l'arrivée, enfin tous ceux qui t'ont porté tout le long du chemin.
Ça te porte, quoi. C'est énorme. Et d'avoir autant de soutien et je remercierai jamais assez les gens, quoi.
Tu es face des tablettes, François Denne en améliorant son record de 41 minutes. Est-ce que c'est aussi symboliquement très fort à tes yeux au regard de l'aura et du respect très légitime qu'inspire François? Est-ce que c'est encore plus marquant de ce fait-là?
Ouais, bon, après, le battre de 40 minutes, de 20 minutes, d'un quart d'heure, c'était pas la question. Moi, je voulais battre ce record. Après, c'était François qui l'avait. Si ça avait été un autre, c'était pareil. Mais je voulais battre le record avant tout. Après, le temps, c'est vrai que 40 minutes, c'est bien, c'est honnête. Après, c'est vrai qu'on a pensé pendant un moment, on a pensé pouvoir passer sous les 30 heures. On était dans les temps pour passer sous les 30 heures. Et puis bon, après, j'ai perdu du temps dans le sud. Mais c'est vrai que casser la barre des 30 heures, ça aurait été une énorme satisfaction. Mais bon,
un bel objectif pour 2023, peut-être?
Pourquoi pas, à voir. À voir.
Au-delà de l'accueil incroyable qui t'a été réservé sur place, ton exploit, il a très largement résonné. Il a été unanimement salué par le monde du trail et même plus généralement. Quel sentiment ça t'a procuré? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir été un peu dépassé? Est-ce que ça finalement changer des choses et ça t'a révélé à plein de gens qui ne te connaissaient pas? Enfin, voilà, est-ce que y a un avant et un après record pour toi?
Oui, forcément, ça a fait connaître à plus de gens, même sur les réseaux sociaux et tout. C'est vrai qu'on a eu pas mal de partages, de gens qui me connaissaient pas forcément, mais voilà. Mais après, les gens qui s'intéressent à ce sport et qui connaissent un peu ce milieu-là me connaissaient, mais c'est vrai que là, ça a un peu dépassé la sphère, on va dire, course et trailer et voilà. Donc ça, après, moi, j'ai pas changé. Ça a pas changé grand chose sur mon quotidien.
Tu cours pas après ça.
Voilà, je cours pas après ça. J'ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un bon équilibre de vie entre mon boulot et ma famille et mon sport qui reste ma passion. Et je veux pas que ma passion devienne mon boulot. Donc,
on cloisonne bien les choses.
Voilà, ça change pas grand chose. Je veux toujours pas de sponsor. Je reste tranquille dans mon coin. Je fais mes courses. Et voilà, je cours pas après la reconnaissance et la gloire.
Question impossible, mais tu dois avoir une multitude de souvenirs en tête, évidemment. S'il y en avait une seule, quelle est l'image que tu retiendrais de ce Gervin? Si je t'en parle dans 20 ans, qu'est-ce que tu penses qui va te venir à l'esprit en premier lieu, une image, un instant? Est-ce qu'il y en a un qui reste un peu plus marquant que les autres?
Ouais, mais pour moi, il y a une photo de Damien. On avait Damien Rossou qui était là. Ça a été notre photographe qui m'a suivi tout le long du parcours. Il y a une photo de Damien quand on repart de Bavé, là, tous ensemble, et où on est tous les coureurs sur une piste, on est une trentaine, 30-40, et cette photo, elle est magnifique, et pour moi, c'est la photo qui résume ce GR, quoi. L'équipe.
Le collectif, on l'a compris,
le collectif. C'est
un collectif, tu tiens vraiment à insister là-dessus, t'as raison. Lambert, combien de temps on met pour récupérer d'un tel effort? C'est des jours, c'est des semaines? Comment est-ce qu'on se retape?
Écoute, déjà, j'ai pas dormi pendant 3 nuits. Alors le soir même, quand je suis arrivé, oui, j'ai réussi à dormir 2-3 heures. Après, je me suis réveillé, ça a été fini. Et après les deux autres nuits, j'ai pas fermé l'œil. Je sais pas, j'étais l'organisme qui était chamboulé certainement. Après, oui, j'étais bien à plat pendant une quinzaine de jours quand même. J'avais pas d'énergie, tu vois. Et puis après, ça a commencé à revenir. Et j'ai recouru au bout d'une quinzaine de jours. J'avais fait un peu de vélo avant, j'ai recouru au bout d'une quinzaine de jours et les sensations sont revenues assez vite. Fin juillet, j'ai même fait une course. Il y avait une course ici, là, en Castanice, à la Via Romana. C'est une course que j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait cette course. Et bonne sensation. J'ai bien géré ma course, j'ai réussi à gagner. Et par contre, j'ai eu un coup de bambou. Après, je sais pas, parce qu'on a énormément travaillé au mois d'août au resto. On a eu un boulot de dingue. Mais j'ai eu un coup de fatigue au mois d'août, mi-août. J'étais à plat pendant. Ouais. Alors, je sais pas si je pense que c'est le contre-coup du GR. Souvent, ça me le fait, ça. J'ai un contre-coup. Je suis assez bien 15 jours, 3 semaines après. Et puis après, derrière.
Tu te fais rattraper par la patrouille.
Entre 40 de jours après, j'ai un contre-coup. Donc je pense que ça a été quand même ça entre le boulot et le contre-coup du GR. Le mois d'août a été assez assez fatigant.
Sportif.
Voilà. Mais après j'étais bien en septembre et j'ai réussi à refaire un bon mois de septembre pour bien me préparer pour la Diag.
A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ce record? Est-ce qu'il y a une chose qui t'a surpris par sa difficulté ou voilà, est-ce que t'as perçu quelque chose d'inattendu et que t'as eu du mal, qui était peut-être plus compliqué que ce que tu pouvais imaginer?
Écoute, les difficultés, si tu veux, je savais vraiment à quoi m'attendre et les difficultés, je les connaissais. La difficulté, c'est la technicité du parcours, c'est le temps, c'est voilà. Mais après, il y a rien qui m'a surpris parce que je savais vraiment à quoi m'attendre, quoi. Et je m'étais préparé comme il fallait pour
en conséquence,
quoi.
Est-ce que ce record, il t'a appris des choses sur toi?
Est-ce qu'il m'a appris des choses sur moi? Oui, bien sûr. Mais après, une expérience si longue, ça peut être qu'enrichissant. Voilà, 30 heures de course, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu fais souvent. Et après, ouais, je pense que ce sera enrichissant pour une course comme la Diag, tu vois, tu relativises après.
Ça te donne un niveau de confiance que tu avais peut-être pas connu jusque-là, parce que ça, ça t'assoit et ça t'a fait la démonstration que tu pouvais encaisser de telles distances. Et donc,
ouais.
Pour les prochaines, tu pars plus fort que ce que tu étais avant ce record.
Et puis, les barrières, que ce soit le temps, les distances, quand tu brises une barrière, tu vois, quand tu brises les 30 heures, je pense que dans la tête, tu te sens plus fort après, quoi. Voilà, briser les 24 heures, briser les 100 kilomètres, la 160. Donc, ce sera enrichissant pour la suite, c'est sûr.
Ce record, il a donné lieu à la production d'un documentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, si tu as la possibilité de le faire?
Ouais, ben, il y a un film qui a été tourné, depuis le mois de, toute ma préparation, depuis le mois de mars, avril, et qui nous a suivis tout au long du GR. Et ce film, il sortira au mois de, normalement, mars, avril, au printemps prochain. Voilà. Donc, ce sera un 52 minutes qui sera diffusé sur France 3 Corse via Steel, dans un premier temps, et puis après, peut-être sur la chaîne nationale.
On espère.
Ouais.
Merci beaucoup, Lambert. On va maintenant parler un tout petit peu de ton avenir. Donc, à très court terme, on l'a compris, il y a la Diagonale des Fous. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs sur cette course-là? Et puis, est-ce que tu as déjà des grands rendez-vous en 2022 qui sont prévus?
Alors, sur la Diag, les objectifs, écoute-moi, tu sais, toujours pareil, sur un ultra, il faut quand même rester très, très humble et très prudent. Il peut se passer énormément de choses pendant 24, 25 heures de course. Donc, j'essaierai de bien faire. Et s'il y a un coup à jouer, ben, si je peux aller devant, j'en ai les capacités, je m'en priverai pas, c'est sûr. Mais bon, après, objectif, j'aime pas trop me mettre des objectifs à l'avance comme ça. Ouais, bien finir, ça serait bien déjà.
Est-ce qu'à plus long terme, il y a un défi qui te fait particulièrement envie, peut-être l'année prochaine ou à plus long terme? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêves d'accomplir? Est-ce que justement, c'est 30 heures sur les GR, basculer sous les 30 heures? Est-ce que c'est autre chose?
Pourquoi pas? Bon, pas dans. Pour l'instant, il n'y a rien de. Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Après, voilà, je pense que maintenant j'ai le record, donc. Maintenant, peut-être laisser faire quelqu'un d'autre et puis on verra si le record est battu, peut-être y retourner après. Là, le challenge n'en serait que plus beau, mais retourner sur mon record pour battre mon propre temps, non, je pense pas. Mais non, bah, après, voilà, il y a plein de courses qui me font envie. L'année prochaine, j'ai peut-être envie d'aller courir dans les Dolomites, faire le Lavaredo au mois de juin. Il y a une course aussi qui me fait envie depuis pas mal d'années en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est au mois de décembre. Il y a un ultra en Patagonie aussi. Enfin, voilà. Après, moi, j'aime bien aussi faire une course et en même temps faire un voyage et découvrir un nouveau pays, un nouvel endroit. Donc, voilà, il y a plein de belles courses qui me font envie à travers le monde. Le marathon des sables, peut-être un jour. Donc, les projets, oui, c'est pas ça qui manque.
Merci beaucoup, Lambert. Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation ou une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustre ta philosophie de vie, une espèce de leitmotiv, quelque chose qui te guide? Est-ce que tu as une phrase qui représenterait tout ça?
Ouais, enfin, une phrase. Moi, c'est le. Il faut pas se prendre la tête.
L'idée, en tout cas.
Ouais, mais il faut pas se prendre la tête. Il faut prendre du plaisir, quoi. On est tous des passionnés avant tout. C'est pas notre job. On court parce qu'on aime ça. On fait des courses, des ultras ou des courses plus courtes parce que c'est notre passion. Et il faut pas se prendre la tête. Il faut pas se prendre la tête. Il faut rester 100% plaisir.
C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Lambert de nous avoir fait vivre dans tes pas cet incroyable record sur le GR20, un sentier qui suscite à juste titre une incontestable fascination. Bravo encore à toi pour cette remarquable perf, ton admirable sens du partage sur ce défi. Je trouve que c'est beaucoup ça qui ressort aussi dans la façon dont tu le racontes. Et donc c'est finalement une réussite collective et quand bien même tu as signé une perf individuelle qui est absolument remarquable. Merci beaucoup pour nos échanges Lambert, j'ai passé un super moment en ta compagnie. Et voilà, merci. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets. À très court terme, il y a la Diag. Donc on te regardera attentivement. Et puis voilà, de t'accomplir dans ta vie personnelle et dans ta pratique sportive. Voilà, on comprend bien que c'est deux piliers structurants et bien dissociés de ta vie. Et que voilà, que tu prennes du plaisir en tout cas sur ces deux dimensions de ta vie qui sont fondamentales.
Super, bah, écoute, moi je te remercie de m'avoir appelé pour faire ce podcast et au plaisir un de ces jours.
Avec grand plaisir. Salut Lambert, merci.
Bonne journée, au revoir.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.